Et vous peignez quel genre de peinture?
Ils m'ont dévoré, les artistes. Renversé. J'ai plus de défense. Même à ticket de métro, joliment plié, ça m'émeut.
J'adore la paix.
Cette année, le visage d'Exporama, c'est celui d'une jeune fille aux yeux grands ouverts. Des yeux peints par l'artiste rennaise Charlotte Vitaioli, dans lesquels se reflète un paysage maritime ensoleillé. Dans nos yeux, à Scilab se réplique un panorama d'art contemporain dans lequel nous vous invitons à plonger, avec regard sonore sur Exporama, une série réalisée par Héloïse Descartes, zoom sur 4 expos sélectionnées parmi la programmation de l'événement estival dédié à l'art contemporain à Rennes. Épisode 1, les chiens qui aboient. Noir Brillant, c'est le nom qu'ont donné Delphine Lecan et Anita Goran à leur association. À travers elle, les deux artistes rennaises souhaitent soutenir la création contemporaine, comme celle d'Eddie, une artiste bretonne résidant à Berlin. Invitée par Noir Brillant pour une résidence de création de 3 semaines, elle a imaginé Les Chiens qui aboient, une installation punk et poétique présentée jusqu'au 21 juillet dernier à Rennes, au sein d'un lieu d'exception, l'ancienne église Saint-Laurent-des-Vignes.
On a dans un lieu assez particulier qui est l'église, qui est plutôt le lieu de Delphine.
C'est une ancienne église que j'ai achetée il y a 5 ans. Et au départ, c'était pour faire mon atelier et des ateliers que je pourrais louer à d'autres artistes. Comme ça, on pourrait travailler à plusieurs ici. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a Anita qui est arrivée et qui a acheté une petite chapelle qui est juste à côté de cette église, à 100 mètres en fait. Et ça devenait hyper évident de monter une asso toutes les deux pour promouvoir l'art contemporain.
Mon nom d'artiste, c'est Eddie. C'était génial, moi j'arrive dans le lieu et je vois 8 mètres de hauteur sous plafond, enfin un truc dingue, et je me dis, qu'est-ce que j'aimerais bien voir dans ce genre d'espace? Je me suis dit, ah, j'aimerais bien voir une grande voile, ou comme une grande voile, ou comme un drapeau pirate, ou une voile de parachute, mais en tout cas un espèce de grand drapé, parce que c'est une archi très droite, très structurée. En même temps, Delphine a fait un magnifique travail de rénovation. Et comment on fait quelque chose qui est très fluide, qui prend de l'espace tout en étant fluide. Et je m'étais dit, ah tiens, une voile de bateau ou un tissu, un grand tissu. Et c'était le défi de le faire. Donc je suis arrivée avec ce grand tissu, avec un poème, un grand lettrage dessus, collé dessus. Le poème, est-ce que je te le lis? Jette le tout et la clé avec, pars en courant en ligne droite, les yeux bandés, jette le tout et donne le reste au chien. Moi, j'aime beaucoup travailler avec et la musique et des poèmes et de l'écriture. Donc j'ai souvent des petites notes et sur mon téléphone et par écrit de pensées du jour. Ça peut être aussi une phrase que j'ai entendue dans une chanson. Et spécifiquement sur cette exposition, parce que l'idée m'est venue en février, c'était lorsqu'il a commencé déjà à avoir un contexte difficile politiquement. Donc en France, vue de Berlin, et c'était spécialement parce que je m'informe toujours sur les médias français pour voir un peu ce qui se passe en France, même si ça fait 12 ans que j'habite pas là. Et je vois la polémique sur, à l'époque, Aya Nakamura qui doit chanter pour les JO, et Walidia qui fait un sketch en réponse à ça et qui dit « C'est incroyable, Emmanuel Macron jette Aya Nakamura au crocodile raciste ». Et je me suis interrogée sur crocodile raciste. Je me suis dit, ben moi, c'est pas crocodile raciste que je dirais, c'est même des chiens qui aboient très fort sur certaines chaînes ou certains médias. Et on essaye tous de faire notre route dans notre vie. Et il y a toujours des gens qui parlent plus fort ou qui pensent qu'en agressant, le message va passer. Et donc, ce poème naît de ça. C'est un peu un sentiment de... On a tous ce sentiment, des fois, on en a... Bon, on se sent révolté en fait, on en a marre de pas être entendu. Et ce que j'aime bien en général quand j'écris des poèmes, c'est que ça soit assez, ça reste assez abstrait, parce que ça peut être un sentiment comme quelqu'un qui a une mauvaise journée ou un mauvais mois qui dit j'en ai marre, là j'ai envie de tout jeter. C'est pas l'idée de donner un message en fait, c'est plutôt une émotion, un ressenti. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec des écritures un peu brouillées ou un peu difficiles à lire, parce que c'est que mon sentiment à un moment, peut-être quelqu'un pourra s'identifier à un autre moment.
Là, on est derrière le drapeau. Ça fait tout de suite une autre ambiance. On est coupé, hop, hop. Tout le monde est de l'autre côté. Il y a des sérigraphies qu'a faites Eddie, qui sont aussi là et qui sont posées d'une façon un peu plus, on va dire, institutionnelle, etc. Quoi. C'est discret, quoi, par rapport justement à ce drapeau qui pose un postulat très radical, etc. Donc, c'était aussi ce contraste-là qui faisait que c'était intéressant.
J'ai toujours fait de la musique en fait et de l'art visuel. Et c'est des choses que j'ai toujours cloisonnées parce que pour moi, c'était peut-être une erreur, mais jusqu'ici j'avais du mal à faire les choses, ces choses-là ensemble. Et donc Anita de Noirbrillant et aussi Delphine, les deux m'ont proposé, m'ont dit ah, est-ce que tu voudrais pas aussi faire un peu de musique en liant les deux et accepter que c'est pas forcément une dualité, que tu fais de la musique et des arts visuels. C'est deux choses qui cohabitent en fait. Je vais pas lire le poème, je vais pas l'intégrer. Par contre, ça vient d'un même sentiment qui peut être n'importe quel type d'émotion qui a traversé ma journée et je me dis comment je l'extrais pour que cette chose puisse être presque inclusive en fait et parle à n'importe qui sans forcément forcer l'identification, que chacun s'identifie, mais chacun se dise bah, tiens, plutôt que le mot en lui-même, ben, je retiens l'émotion qui m'est véhiculée. J'espère que venir là, ça vous donnera de la force et du courage, parce qu'il y a plein de périodes où des fois on manque de courage et de perspective. Donc on est tous dans le même bateau, donc ça va aller.
Épisode 2, Chronique de l'oubli. Cadran de montre masqué par une couche de peinture, horloge déréglée, calendrier sans date. Pour son exposition au Centre d'art contemporain 40 mètres cubes, l'artiste Johan Sorin a récupéré et transformé des objets évoquant le temps et la mémoire, chacun perturbé par les urgences de notre temps. Visite de l'exposition au rythme des métronomes avec Cyril Guittard, chargé de la médiation et de la communication à 40 mètres cubes.
L'ensemble de l'exposition constitue comme ça une sorte de réflexion sur le temps qui passe, le temps qui amène de l'oubli, le temps qui se répète parfois ou qui donne l'impression de bégayer. Dans l'idée de l'artiste, c'était d'amener plusieurs possibilités à la fois de prendre la mesure du temps, avec les objets comme sablier, montre, horloge, des objets qui induisent aussi un rythme comme le métronome, et puis d'autres qui suggèrent une temporalité qui va se répéter à intervalles réguliers. Ça peut être par exemple des peintures qu'on est amené à retourner régulièrement dans l'exposition. Donc chaque semaine, on va retourner une des peintures qui est disposée contre le mur. On a aussi un autre ensemble de peintures qui agissent un petit peu comme un calendrier perpétuel, le calendrier annuel. Donc une fois par mois, on tourne une page, donc une nouvelle peinture apparaît. Et puis il y a d'autres peintures qui sont suspendues, qui sont peintes sur des panneaux de bois, et là on peut les retourner un petit peu plus à l'envi. Ce qui fait que l'exposition se reconfigure fréquemment et de manière assez régulière. Lorsqu'on rentre dans l'exposition, on remarque tout de suite ce grand mur sur lequel se trouvent des peintures, alors certaines posées sur le sol et au-dessus d'elles d'autres peintures accrochées directement sur le mur. On a comme ça un ensemble d'œuvres qui sont pas du tout figuratives, hein, c'est pas la pratique de Johan Sorin, donc on est dans l'abstraction, avec des choses très colorées, des couleurs assez vives, assez engageantes au départ. Et puis lorsqu'on se promène dans l'espace d'exposition, on constate qu'il y a aussi des sculptures qui peuvent être vaguement anthropomorphes par moments, qui sont des combinaisons de matériaux très différents, entre du bois, du tissu, des objets rajoutés, rapportés, comme des montres ou des métronomes. Les peintures accrochées au mur sont des peintures qui sont peintes sur de l'acier cortène. L'acier cortène, c'est un métal qui a pour particularité de s'oxyder très vite. Il va venir comme ça se pigmenter un petit peu de rouille, en fait, ce qui ressemble à de la rouille, qui est en fait une couche protectrice du métal. Pour lui, c'était vraiment une réflexion aussi sur ce que dit notre époque, avec quand même des urgences, par exemple les urgences climatiques, parce que le temps, c'est aussi ça, ce sont des échéances. Il y a d'ailleurs dans l'exposition une sculpture qui reprend un cercueil. Donc derrière, en fait, une apparence assez légère de l'exposition, avec ses couleurs assez vives, ses personnages un petit peu grotesques, presque amusants, qui sont là, dans les sculptures anthropomorphes, on a quand même une réflexion sur le temps qui n'est peut-être pas si optimiste que ça, qui est même plutôt pessimiste. Voilà. Quelles sont les échéances, les urgences, l'urgence climatique, mais il y a peut-être aussi, si on replace ça dans une perspective qui est celle de notre époque très actuelle, là, c'est des urgences peut-être politiques aussi qui sont présentes. Donc une réflexion peut-être sur l'histoire. On dit que l'histoire a tendance à se répéter. Pour l'artiste, elle ne se répète jamais exactement de la même façon. Il a tout à fait raison. On est plutôt des fois dans des contextes historiques un petit peu similaires ou certains qui en rappellent d'autres. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut oublier ou non? Ne pas oublier, c'est aussi permettre peut-être de ne pas répéter des erreurs qui se sont produites dans le passé. Mais peut-être aussi que l'oubli, dans certaines circonstances, à titre plus individuel, est peut-être nécessaire pour pouvoir avancer, parce que sinon on a un fardeau peut-être trop lourd aussi à porter. Là on entend d'ailleurs cette bande-son qui est là présente en permanence dans l'exposition, qui qui vient scander les secondes. C'est l'artiste qui a fait une performance. Pendant une heure, il s'est enregistré, claquant de la langue, pour rythmer les secondes, avec toutes les imperfections qu'induisent un geste humain, c'est-à-dire que la régularité n'est pas forcément parfaite. Il y a des sonorités qui changent, parce qu'à un moment, la déglutition se fait moins bien, ou alors la salive n'est plus tout à fait présente. Donc voilà, il y a une variation comme ça qui se fait, mais le temps passe aussi comme ça, en permanence. Et cette bande-son, on peut aussi en amener une sorte de complémentarité par la présence de deux métronomes dans l'exposition qu'on peut activer à notre envie et qui viennent créer comme ça des contrepoints rythmiques, presque des polyrythmies. Et dans un premier temps, ça peut presque être dansant, mais très rapidement, ça devient aussi un petit peu stressant, voire angoissant, parce qu'on a ces métronomes qui ne sont pas accordés et donc on a ces rythmes qui ne se coordonnent pas bien du tout et qui peuvent générer un certain stress. Et on sent vraiment ce côté un petit peu angoissant, en tout cas moi je le ressens comme tel. C'est quelqu'un qui aime bien aussi amener, au-delà de ses créations, des objets qu'il récupère, qui, pour différentes façons, lui parlent. Alors, des fois, il les transforme. C'est le cas du cercueil, par exemple, sur lequel il va venir peindre, creuser à la défonceuse le motif d'une horloge, parce que pour lui, le cercueil redressé, ça évoque un peu la forme d'une horloge comtoise. Mais aussi, on a dans l'exposition, sur la charpente, un bras qui, lui, n'est plus sur une taille normale, parce qu'il est très long, d'ailleurs, ça s'appelle le long bras. Et il est fait en tissu peint, un long tissu peint, de couleur assez légère, assez joyeuse. Il y a beaucoup de montres sur ce long bras qui se termine par une main, type main de farce et attrape. L'empilement des montres qui viennent nous dire en quelque sorte que le temps, qu'est-ce qu'il est, comment on le mesure, comment on le voit, comment on le perçoit. D'autant que chacune des montres a eu son cadran peint par l'artiste. Donc on ne voit plus les aiguilles et là on n'a plus du tout l'idée du temps. Mais d'ailleurs, sur aucune des horloges dont on voit là clairement les aiguilles, on voit les aiguilles des secondes qui tournent, mais comme il n'y a pas les repères des heures, du temps, ben on n'est en aucune façon capable de dire quelle heure il est exactement sur ces cadrans que dispose l'artiste. Donc on est un petit peu perdu aussi dans le temps, dans l'exposition.
Épisode 3, Copy Room. Quand la technologie est souvent synonyme de manipulation de la réalité, quand les émotions ont tendance à primer sur la vérité, comment différencier le réel du virtuel? Dans l'exposition Copy Room, présentée aux Ateliers du Vent de Rennes jusqu'au 21 juillet dernier, des artistes provoquent une confusion intentionnelle entre fiction et réalité. Alix Desoblio, commissaire de l'exposition, nous entraîne dans cet univers où le vrai ne se distingue plus vraiment du faux.
L'élan initial partait de l'envie d'étudier ou de détricoter la notion du faux, un peu dans tous les sens et dans toute sa complexité, c'est-à-dire comment ce qu'on va envisager comme étant une vérité peut relever en fait de l'affectif, de l'émotionnel, du subjectif, ou à contrario, comment les fictions qu'on va pouvoir se raconter vont pouvoir avoir un réel ancrage dans notre réel, un réel impact, et avoir du sens des fois difficile de démêler par rapport à ce qu'on considère comme étant vrai. Donc il y a des œuvres qui vont aussi bien parler de mythologie, par exemple là pour la vidéo qui accueille les spectateurs à l'entrée, qui est une œuvre de Margot Parillo et Frédéric Christensen, qui sont un binôme qui s'appelle Considered to be a Lies, qui en fait se déroule durant les deux éclipses consécutives qui se sont passées aux States en 2016 et en 2024. Et on y voit des gens échanger, essayer de comprendre, détricoter, mais aussi parler de l'effet que ça leur fait que d'observer une éclipse. Quand on regarde cette vidéo, on ne sait pas dans quelle mesure cette vidéo va être une fiction, une narration, si c'est au contraire très casual et qu'elles ont filmé vraiment des gens dans leur quotidien. Et du coup, voilà, il y a cette espèce de construction un peu mythologique autour de ce truc impalpable et inexorable. D'un autre côté, il y a des pièces comme celle de Mardi Noir qui sont au contraire des rapports très simples, où là c'est une caisse en bois qui est en fait un dessin de caisse sur un carton et là qui va jouer en fait avec beaucoup d'humour et de finesse de manière très frontale, plutôt sur des questions de symbolique et avec des systèmes de signes, qu'est-ce que c'est que de représenter quelque chose, est-ce que ça suffit? En fait, c'est une caisse en bois, effectivement c'est un dessin de caisse sur du bois, donc voilà, il y a cette espèce de frontalité et d'immédiateté. Il y a des œuvres aussi qui parlent pas mal d'intimité, de pop culture, toujours dans cette idée de fiction, mais également d'autofiction. Il y a par exemple l'œuvre d'Ophélie de Murger qui elle aussi bosse beaucoup sur la pop culture et le star system. C'est une grande image qui est marouflée au mur avec un écran vidéo qui y est accolé. Et c'est une installation qui s'appelle Kim / Paris / Me. Et Ophélie rejoue une photo où on voit Kim Kardashian qui rejoue une photo où on voit Paris Hilton. Et du coup, il y a cette espèce de dégradation, de transformation de l'identité au fur et à mesure de cette même image. Et sur l'écran, on y voit une vidéo où Ophélie reprend les codes de la ASMR, donc qui sont des chuchotements, des bruits très fins, où elle parle du vocal fry. Le vocal fry, c'est quand tu fais très présent dans la langue anglaise, comme méthode d'empouvoirment féminin. Donc il y a aussi un rapport très intime, de transformation du corps, de transformation de soi, de comment on digère les choses.
Mentionnez aussi que les personnes qui parlent avec une voix grave sont plus prises au sérieux.
La projection de derrière, c'est une vidéo qui s'intitule Neighborhood, et en fait on y voit parler des gens qui racontent leur vie, on y parle, voilà, je suis sortie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et en fait plus ils parlent et plus il y a quelque chose de vraiment chelou qui se met en place. Du coup, bah, spoiler alert, en fait, c'est des gens qui ont pour instruction de raconter leur vie, mais comme si ça venait des Sims. Donc, en fait, il y a quelques éléments où quand tu commences à écouter un Gus qui dit « Ouais, alors là, voilà, bah, je l'ai dragué et ah, bah, ça a très bien marché. Tout de suite, il y a eu des petits cœurs et tout ça. Et en fait, tu sais pas trop s'il est complètement dans un autre univers. Et en fait, oui, il est complètement dans un autre univers, mais c'est celui des Sims. » Il y a aussi là les images de Hugo Kostrewa, qui est un artiste résident aux Ateliers du Vent, qui sont des images très étranges, très texturées et très charnelles, on va dire, qui sont accrochées au mur sur des lycras. Ces lycras sont étendues par des petites épingles, donc ça distord l'image. Et en fait, en regardant ces textures, ces images nous évoquent des choses. Et en fait, bah, en général, c'est exactement l'origine que ça nous évoque. C'est des images en fait qui ont été générées par une IA et qui ont été convoquées en mélangeant du fromage et des images pornographiques. Du coup, effectivement, on va voir apparaître des parties de corps, des parties de pizza, des choses qui s'entremêlent complètement, y compris des visages. Genre là, par exemple, on peut voir émerger le même classique de la troll face. Et en fait, fromage, d'un point de vue sémantique, ça vient de forme, c'est qui prend la forme d'eux. Donc le fromage, en tant que tel, n'a pas de forme prédéfinie. Et du coup, c'est des cheese stretch, des fromages étirés, avec cette espèce de mélange de fluides corporels et de fluides de cheddar. C'est aussi ça qui nous intéressait avec Copy Room, c'était la notion de post-vérité. En fait, un moment où la vérité est complètement transformée par nos affects, et encore plus avec les réseaux sociaux, qui, on l'a bien vu avec les élections européennes, où chacun, chacune était plutôt persuadé, en fait, qu'il y avait une part importante de personnes qui allaient voter comme elle, et en fait ça a été une énorme désillusion, et c'est là où tu te rends compte que ton monde d'information, il est façonné par des algorithmes qui fabriquent un monde à ton image. Donc en fait ta vision du monde est complètement biaisée, et l'interconnectivité des réseaux sociaux te crée une illusion, et c'est un peu ce truc de à l'intérieur ou à l'extérieur, où en fait à l'extérieur t'as l'impression que tout va bien, alors qu'en fait tu sais pas du tout ce qui se passe au-delà de cette façade.
Copy Room est porté par les commissaires Alix Desoblio, artiste représentante de l'atelier Vivarium, et Grégory Deloré, artiste résident des Ateliers du Vent, en partenariat avec Capsule Galerie. Épisode 4, Aérosol, une histoire du graffiti. Nous en avons tous déjà vu, voire déjà fait. Les graffitis sont omniprésents dans nos cahiers, nos transports en commun et même dans nos rues. Mais connaissons-nous vraiment leur histoire ? Retour sur plus de 60 ans de bombage à main levée. Une histoire décortiquée au Musée des Beaux-Arts de Rennes, aux côtés de Claire Lignereux, responsable art moderne et contemporain au musée et coordinatrice d'Exporama.
C'est vraiment l'outil de la bombe aérosol qui va être notre fil conducteur. En tout, on en a plus de 200 dans l'exposition. Les bombes aérosols, c'est développé beaucoup dans les années 40. À la base, c'est pas du tout pour de la peinture, c'est notamment pour les insecticides. Les peintures en aérosol, elles sont commercialisées à partir de la fin des années 50. Et à la base, c'est pas pour aller peindre dans les rues, c'est pour repeindre sa carrosserie de voiture, pour repeindre son radiateur. Donc on va vraiment être dans une logique de détournement d'outils. Et d'ailleurs, pas mal de marques vont d'abord être un peu gênées par l'usage illicite qui peut être fait pour écrire ou peindre dans les rues. Les premiers qui vont se saisir de la bombe pour faire autre chose que repeindre son radiateur et plutôt pour aller écrire sur les murs, c'est tout ce qui va être slogan « bombé dans les rues ». Ça apparaît dès les années 60 et ça va considérablement s'amplifier avec mai 68. Donc là, par exemple, devant nous, on a une série de photos, mais également des affiches de mai et juin 68 qui montrent des slogans bombés dans la rue avec des phrases qui restent complètement dans notre imaginaire, hein, comme « sous les pavés, la plage »,« étudiants solidaires des travailleurs », etc. Cet usage politique va commencer à intéresser des artistes. Certains qui vont collecter des graffitis dans la rue qui ont été faits par d'autres. Et puis, il va y avoir à partir des années 70 des artistes qui prennent eux-mêmes la bombe et qui commencent à créer avec. Notamment Ben. Je pense que vous connaissez tous l'écriture de Ben. C'est très reconnaissable. C'est décliné sur tout un tas d'objets du quotidien. Et ben, il faut savoir que Ben, il a commencé dans les années 60 à écrire sur les murs. Il commence avec un pot de peinture et un pinceau. Et puis assez rapidement, il va passer à la bombe aérosol. C'est beaucoup plus efficace, c'est plus maniable, c'est plus léger, c'est plus facile à cacher. Et donc là, on a des photos des années 70 où on le voit qui souligne les petits défauts du paysage urbain quotidien. Par exemple, là, il y a une vitre qui est cassée et il met une flèche et il écrit « cassé ». Dans les années 80, il y a vraiment quelque chose qui se structure, des mouvements artistiques, des techniques qui s'implantent avec plusieurs artistes. D'une part, les pochoirs, on découpe dans un carton et on s'en sert comme matrice pour pouvoir ensuite aller bomber des images vite fait, bien fait dans les rues qu'on peut reproduire à l'infini. D'autre part, ce que le grand public appelle souvent le tag, sauf que le tag, c'est un peu plus spécifique que ça, c'est quand on a une signature qui est faite vite fait, mais à partir du tag, se développe aussi toute une culture du lettrage, du graffiti writing, qui va être beaucoup plus artistique, avec des recherches sur la calligraphie, sur les dégradés de couleurs, les effets d'ombre, de volume, etc. Ce qui fait que cette signature initiale devient vraiment un objet artistique. Ça s'est développé à New York et à Philadelphie dans les années 70, en particulier dans les quartiers populaires comme le Bronx, les quartiers afro-américains, et en particulier sur les rames de métro. Ça permettait aux jeunes des banlieues, typiquement, d'acquérir de la visibilité et de faire circuler leur nom, ou plutôt leur pseudonyme, sur les rames de métro d'un bout à l'autre de la ligne, donc ça traversait toute la ville en fait. Cette culture-là, ensuite, elle va être importée en France et reprise par pas mal de jeunes artistes en France. L'élément déclencheur, ça va être l'arrivée de la culture hip-hop. Là, derrière vous, vous avez une grande toile qui a été peinte par Futura 2000 sur la scène du Bataclan, lors du spectacle du New York City Rap Tour en 82. Futura 2000, il fait vraiment partie de ces graffeurs américains qui vont faire connaître le graffiti à l'américaine en France, même si lui, on le voit, il n'est pas trop dans les lettrages, hein. Il fait quelque chose de beaucoup plus abstrait, avec voilà des arcs de cercle, des ronds, des formes qui flottent, le tout très très coloré, très énergique, ça part un peu dans tous les sens. Ça va être un choc pour plein de jeunes qui le voient sur scène, qui trouvent que c'est magique, c'est très fluide, on a presque l'impression que la peinture sort de ses doigts. En Bretagne, on voit que c'était surtout les pochoiristes qui étaient à l'œuvre et qui recouvraient les murs dès le milieu des années 80 à Rennes. Des artistes comme Yeman, comme Lollipop. On a ici un petit ensemble d'œuvres et de photographies, d'affiches et de matrices concernant les transmusicales de 1986. Parce que cette année-là, il y a plusieurs pochoiristes parisiens qui viennent, en l'occurrence Black Le Rat, Mystique et Marie Rouffet. Et donc ils sont actifs à Rennes pendant les transmusicales, ils performent dans les salles de concert, mais ils font aussi plein de pochoirs dans la rue, et on a même un capot de voiture, puisqu'il y a quelqu'un qui croise Black Le Rat, qui lui demande de faire des pochoirs sur sa voiture, et le véhicule est depuis longtemps à la casse, mais il a gardé le capot en souvenir. On a voulu faire une ouverture jusqu'à nos jours. Ça pose aussi cette question de la transition entre la pratique illicite dans la rue, dans des dépôts, au bord des voies ferrées, et le passage à une carrière artistique qui pourrait faire vivre, parce qu'à un moment, il faut bien vivre aussi. Aujourd'hui, on est toujours dans ce paradoxe-là, avec des institutions qui, à la fois, condamnent un peu l'usage vandale, parce qu'après, on est obligé d'aller nettoyer les murs, mais reconnaissent la valeur artistique de ce qui est fait. Donc, dans le même temps, il y a certains tags qu'on va effacer, mais ailleurs, on va commander des œuvres sur des murs. On reste dans l'ambiguïté, mais qui est inhérente, puisqu'effectivement, on est dans un art qui se développe aux marges de l'illicite.
En écho à l'exposition, visible jusqu'au 22 septembre, les graffeurs Jeff Aerosol et John Wan peignent cet été le mur, MUR, pour modulable urbain et réactif, situé rue Vasselot. Au même moment, l'artiste Olivier Chaos s'empare lui aussi du mur du couvent des Jacobins de la rue d'Échange.